Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine.
En 2025, France Mémoire, la mission des commémorations nationales, fait figurer dans son calendrier un événement décisif de l'histoire de la République. Je parle des lois constitutionnelles de 1875, dont nous fêtons cette année les 150 ans, et ces textes qui ont été adoptés dans un contexte politique tendu ont posé les fondations de la Troisième République. Ils sont peu connus du grand public, souvent même éclipsés par d'autres grandes dates de notre histoire nationale, et pourtant, eh bien, ces textes, ils ont durablement ancré la France dans la République. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur les origines complexes de ce régime, de comprendre les compromis qui ont permis la naissance de la Troisième République et de voir en quoi, 150 ans plus tard, eh bien, ces lois continuent d'irriguer notre droit, nos institutions et notre vie démocratique. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Allorand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien du droit, président du comité d'histoire parlementaire et politique et grand spécialiste de la vie parlementaire française. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
Alors, de cette Troisième République, on retient surtout ses avancées démocratiques, ses lois sur la liberté de la presse, la scolarisation gratuite, les fondements de la laïcité. On connaît peut-être un peu moins comment tout a commencé. Elle débute dans un contexte assez difficile. Pour planter le décor, on est en 1870. La France est très affaiblie. Elle vient de perdre la bataille de Sedan. L'empereur Napoléon III capitule. C'est pas un moment très heureux pour le pays qui doit faire face à de nombreux défis. En premier lieu, celui de sa légitimité politique. Qui pour gouverner ?
Alors, c'est effectivement un contexte compliqué et même dramatique, hein, puisque, comme souvent en France, un régime chute à cause d'une guerre et d'une défaite. Donc, un contexte absolument dramatique, puisque non seulement il y a une défaite militaire face à la Prusse et qui aboutit à l'Empire allemand, hein, à la proclamation de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces de Versailles, mais il y a une guerre civile, puisque la frustration de la population parisienne et ses souffrances lors du siège aboutissent à une révolution, hein, une première dans le monde, hein, la Commune de Paris, qui pendant 3 mois à peu près, hein, on sait que quand les bolcheviks prennent le pouvoir en 1917 en Russie, au bout de 3 mois, ils disent « on a battu le record de la Commune de Paris ». Bon, donc ça a beaucoup marqué l'histoire du monde ouvrier. Et puis ça se termine dans un carnage, dans une guerre civile épouvantable, imagine-t-on à Paris, hein, 20 000 morts et environ 20 000 militants ouvriers, communards ou communeux, qui sont condamnés et déportés. Donc c'est vraiment l'un des moments, très probablement, où la France a été la plus divisée. On ne peut comparer probablement qu'avec la période de l'occupation, hein, 1940, 44 ou 45, où véritablement la guerre étrangère aboutit à des discordes civiles très fortes.
Vous avez parlé de la Commune de Paris qui arrive en 1871, mais je voulais revenir encore un peu avant, en 1870, au moment de cette défaite de Sedan. Donc l'empereur capitule, mais qui prend l'initiative de dire bah, « l'Empire est fini, on proclame la Troisième République ».
Là aussi, c'est compliqué. Bon, on retient le 4 septembre, bien sûr, le 4 septembre 1870, parce que c'est un peu théâtral, avec une séance au corps législatif, hein, qui était l'Assemblée législative sortante, si on peut dire, du Second Empire, où l'opposition, avec Gambetta, avec Jules Favre, proclame la déchéance de l'Empire. L'empereur, qui avait pris la tête des armées de manière un peu inconsidérée, est prisonnier. Donc, à la défaite s'ajoute la captivité de l'empereur, capitulation, et puis l'impératrice Eugénie, donc régente, essaye de nommer un gouvernement, mais ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une transition un peu brinque-ballante et Gambetta et l'opposition républicaine qui aurait souhaité une transmission légale du pouvoir se résout à finalement accélérer la proclamation de la République, aller renouer avec l'héritage de la République et donc aller proclamer la République à l'hôtel de ville de Paris. Mais ça ne résout rien, en fait. Le 4 septembre 1870, c'est plutôt le début d'une période d'incertitude, pratiquement 10 ans d'incertitude. Donc il y a une décennie où on hésite, où à nouveau, il y a une tentation d'aller vers la restauration de la monarchie. Le bonapartisme, à un moment, reprend aussi des couleurs électorales en 1774. Et puis, pour des raisons qu'on va voir ensemble, c'est la République qui va s'installer. Mais donc, le 4 septembre 70 ne résout rien, puisque avec Gambetta, avec le gouvernement de défense nationale, la guerre continue. La France continue un combat un peu désespéré sur le sol français. Donc, il y a une sorte de remobilisation patriotique, mais avec une situation militaire qui est catastrophique et qui aboutit à la capitulation et donc à la paix de Francfort, donc à partir de fin janvier 1871 et aux élections du 8 février 1871, mais on va y venir sûrement.
Oui. Alors, vous avez parlé déjà de la proclamation de la République qui arrive le 4 septembre 1870, les élections législatives qui arrivent en 71. Et pourtant, j'ai l'impression, enfin, vous me corrigerez si j'ai faux, la mémoire nationale a retenu quand même la date de 1875 et l'établissement de ces trois lois constitutionnelles. Pourquoi on retient plus facilement 1875 que 1870 pour marquer le début de cette, cette Troisième République? Vous l'avez déjà un petit peu expliqué.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, probablement, et à juste titre, on retient plutôt 1875 parce que c'est la véritable stabilisation, le début de la stabilisation du régime avec un compromis, vous l'avez dit, un rapprochement, pour faire simple, du centre-droit et du centre-gauche, donc des monarchistes modérés qu'on appelait orléanistes, et le centre-gauche républicain qui se mettent d'accord sur un régime. Mais effectivement, 1870, c'est simplement un point de départ. Rien n'est réglé, puisque aux premières élections de 1871, qui compliquent encore la situation, c'est une élection législative, c'est pour élire les députés. Sur quoi votent les Français? Sur la paix ou continuer la guerre? Et qui incarne la guerre à outrance, la résistance à outrance?
Gambetta.
Les Républicains. Or, les Français constatent que la situation est désespérée et que ce serait une sorte d'acharnement sans perspective que de continuer la guerre. Et donc, très majoritairement, les deux tiers des députés élus, donc un peu plus de 400 sur un peu plus de 600, sont monarchistes. Ça ne veut pas dire du tout que la France est subitement devenue monarchiste. La preuve, en juillet 1871, il y a des élections partielles très importantes pour prendre la température, en quelque sorte, de l'opinion publique. 114 sièges sont à pourvoir. Les Républicains en gagnent plus de 100. Alors, ça ne veut pas dire que les Français ont complètement changé en 6 mois. Ça veut dire qu'ils ont répondu à une question le 8 février 1871 en disant « on veut la paix ». Et que quand on leur pose la question plutôt du régime politique, en juillet 71, ils disent plutôt la République. Mais ce n'est pas encore totalement assuré.
Oui, ancré. Et au moment de ces premières élections législatives, le 8 février, donc c'est le camp monarchiste qui remporte le scrutin, pourquoi ils n'ont pas tout simplement opéré un retour très rapide à un régime monarchique au moment où ils avaient la majorité, où ils auraient pu le faire?
Vous avez tout à fait raison, la question se pose. Il y a une situation extrêmement compliquée et qui explique que la tentative de restauration ne se fasse pas immédiatement, c'est qu'une vingtaine de départements est occupée par l'armée allemande, prussienne, bavaroise, etc. Et donc, on ne peut pas faire de réunion publique, on ne peut pas vraiment débattre de politique. Donc, les députés comprennent que ça ne serait pas sérieux de régler la question du sort définitif du régime. Et donc, ils se mettent d'accord pour le mettre entre parenthèses. Oh, y a bien sûr des tentations et des idées. Alors, indirectement, si j'ose dire. Par exemple, la question de la capitale est posée. Ce gouvernement et les pouvoirs publics, c'est-à-dire le Parlement, vont se transférer à Versailles, tout d'abord. Et donc, on parle de Versaillais pour réprimer la Commune de Paris. Et puis ensuite, il y a des propositions pour dire, après tout, les rois de France avaient bien installé leur cour à Blois, à Amboise, etc. Donc, finalement, ce serait plus calme que Paris. Et effectivement, pendant une décennie, Paris n'est plus la capitale politique de la France. Dans un pays aussi centralisé que la France, c'est vraiment une rupture. Mais sur, je ne vous ai pas complètement répondu sur la tentation d'une restauration, bien sûr, il y a des tractations. Alors, il y avait un problème. Il y a deux prétendants, puisqu'il y a eu deux régimes précédemment monarchistes, la restauration avec la famille, disons, légitime. Le comte de Chambord, qui est le prétendant monarchiste, que les légitimistes appellent Henri V, et puis la famille d'Orléans. Ils arrivent à se mettre d'accord, il y a un compromis qui se fait, et donc là, les espoirs de restauration sont très forts, parce qu'il y avait une sorte d'autre miracle, le comte de Chambord n'avait pas d'enfant. Donc ils se mettent d'accord pour que le comte de Chambord soit, dans un premier temps, le monarque reconnu par tout le monde, par tous les monarchistes, et puis que lui succède très naturellement la branche cadette, donc les Orléans, si vous voulez.
Ils n'ont pas réussi.
Eh bien non, ils n'ont pas réussi, parce que le comte de Chambord, qui est quelqu'un de tout à fait respectable hein, dans ses convictions monarchistes, est très têtu sur les principes et sur les symboles. Alors vous savez qu'en politique, les symboles, c'est très important. On dit souvent, la Restauration, elle a échoué autour de 1873, parce que le comte de Chambord n'a pas voulu le drapeau bleu-blanc-rouge, et il était fidèle au drapeau blanc. On pourrait se dire que c'est un peu ridicule pour une histoire de couleur. Michel Pastoureau vous en parlerait mieux que moi. Bon. Mais c'est très important parce que le drapeau blanc, ça veut dire la monarchie de droit divin et ça veut dire ne pas reconnaître tout l'apport du 19e siècle en termes de liberté publique. Vous évoquiez tout à l'heure les libertés hein, que va instaurer la Troisième République en matière de régime parlementaire surtout. Or, toute une partie des monarchistes, hein, je vous disais qu'ils étaient 400 sur 600, un peu plus, la moitié à peu près, ceux qu'on appelle les orléanistes, sont des monarchistes modérés, qui sont avant tout libéraux et favorables au régime parlementaire, avant tout, c'est-à-dire plus que monarchistes. Et donc finalement, toute l'histoire des lois constitutionnelles de 1875, ça va être le choix d'un compromis par les orléanistes, par ce centre-droit. Ils vont préférer une république parlementaire et conservatrice plutôt qu'une monarchie à l'ancienne, de droit divin, le prétendant au trône, le comte de Chambord, est trop décalé, si vous voulez, trop extrémiste pour les monarchistes eux-mêmes. Il n'a pas reconnu tout l'héritage de la Révolution française. Le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est ça. Et donc, beaucoup de monarchistes disent « mais c'est pas possible d'imposer aux Français que ce drapeau bleu-blanc-rouge, qui, pour le meilleur et pour le pire, a fait la gloire de la France avec les armées révolutionnaires, puis avec les armées napoléoniennes, qu'on y renonce, qu'on renonce aux libertés, à la laïcité, reconnaître les cultes protestants et juifs, et aux libertés parlementaires et politiques et de presse, c'est pas possible ».
Cette Troisième République, elle a une particularité pardon, qui n'est pas banale. Elle n'a pas une constitution, mais trois lois constitutionnelles. Comment on peut expliquer cette originalité ?
Alors, ça, c'est très important. Effectivement, vous avez raison, c'est une originalité historique.
C'est parce qu'il fallait trouver un compromis, justement, entre tous ces camps divisés.
C'est ça, parce qu'en France, on a l'habitude de constitutions bavardes. Et avec, en général, c'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs, des préambules qui mettent en avant des grands principes. Rien de cela sous la Troisième République. Pourquoi ? Parce que, justement, ce sont des gens d'origine très différente qui ont établi ce régime. Donc, ils n'avaient pas de principe commun. Ils ne pouvaient pas faire une déclaration des droits, puisque les orléanistes restaient de tradition et de cœur monarchistes. Les républicains, qui d'ailleurs étaient divisés, hein, peut-être un mot là-dessus, mais il y avait des modérés, on va les retrouver parmi ceux qu'on appelle les opportunistes, comme Gambetta, comme Jules Ferry, et puis des radicaux. Et ça rejoint votre question sur les lois constitutionnelles. Effectivement, il y en a trois qui décrivent simplement, hein, qui sont très pragmatiques.
Donc, il n'y a pas de socle idéologique. Parce que j'allais vous demander si elle était empreinte de la mémoire de la Révolution française, par exemple.
Alors,
non.
Absolument pas. Parce que, et pour une raison très simple, hein, ces lois constitutionnelles, elles font l'objet d'un compromis. C'est-à-dire que les républicains ne s'y retrouvent pas complètement, les monarchistes non plus, puisqu'ils établissent la République. Dans ces lois constitutionnelles de 1875, c'est une description des pouvoirs du Sénat, hein, de la Chambre des députés et comment les deux réunis en ce qu'on appelle à l'époque l'Assemblée nationale, nous dirions aujourd'hui Congrès hein, à Versailles, comment ils élisent le président de la République. Ça peut sembler bizarre aujourd'hui, mais avoir un président, ce n'était pas du tout une idée des républicains, parce qu'ils avaient une mauvaise expérience, une très mauvaise, la seule élection présidentielle avant la Ve République, c'était celle de 1848, de la Seconde République, le 10 décembre 1848, qui donne comme résultat quelqu'un qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, République Bonaparte, et qui, quelques années plus tard, hein, trois ans plus tard, fait un coup d'État, le 2 décembre 1851, qui établit d'abord une présidence à vie, et puis ensuite l'Empire. Donc, pour la plupart des républicains, ils sont hostiles au fait qu'il y ait un président de la République. Bon, pour eux, c'est bonapartiste d'incarner en une seule personne le pouvoir exécutif. Et puis, autre élément, je dis président de la République, Sénat, Chambre des députés. Un Sénat, est-ce que c'est républicain ? Pas du tout. Dans l'héritage de la Révolution française, et donc des républicains, c'est l'Assemblée unique. Il était logique en France, dans la première moitié du XIXe siècle, avec la Restauration, puis la Monarchie de Juillet, il y a une chambre des pairs, hein, c'est-à-dire des égaux entre eux. Ils ne sont pas égaux avec les autres. Donc, c'est la chambre des lords. Hein. Mais qu'une république ait une chambre haute qui serait au-dessus ou à côté des représentants du peuple, c'est très choquant. Là, comme pour toute cette évolution, il y a un homme qui va avoir une grande importance, c'est Gambetta. Léon Gambetta, alors de cœur, il n'était pas du tout ni pour une présidence de la République, ni pour un Sénat, mais il comprend que pour éviter le retour au bonapartisme et pour éviter une restauration, il faut faire des compromis.
Donc il faut faire des compromis côté républicain. Il faut aussi qu'ils aillent, ces républicains, conquérir les campagnes. Parce que si Paris est gagné, acquis aux idéaux républicains, les campagnes, elles, en revanche, elles sont assez éloignées de ce courant-là.
Vous avez complètement raison. Et ce qui est très important, c'est que les républicains en sont totalement persuadés. Ils sont même presque traumatisés par cette question. Le mot est fort, mais je l'emploie volontairement. Pourquoi ? Ça remonte au Second Empire. Ils étaient donc la génération de Léon Gambetta, de Jules Ferry, de Jules Grévy, etc. Pourquoi ils ont très mal vécu cette période ? 1848, c'est la première fois au monde que le vote dans un pays, n'est plus soumis à des conditions de fortune. Les républicains ont été très marqués par le fait que, quand on met en place le suffrage universel, le suffrage donc sans conditions de ressources, ça profite à qui ? Au profit des notables à la campagne. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec les châtelains. D'ailleurs, en 1871, à l'élection dont on parlait tout à l'heure, le 8 février, il y a un tiers de nobles dans cette assemblée. C'est-à-dire le record depuis les États généraux de 1789. Il y a une sorte de scission et d'incompréhension, non seulement entre Paris et la province, mais entre les villes et les campagnes. Ça va être très difficile d'avoir le vote paysan. Et donc, comment les leaders républicains, et en particulier Gambetta, traduisent cela de deux formules ? Ils disent « le suffrage universel, ça ne suffit pas. Il faut éduquer le peuple ». Et donc, vous l'avez dit en commençant, hein, l'œuvre scolaire de la République, incarnée par Jules Ferry, et qui fait un peu d'ombre de ce point de vue-là à Léon Gambetta.
Il n'y a pas que Jules Ferry.
Il n'y a pas que Jules Ferry, bien sûr. Non, ils sont d'accord avec ça. Hein. C'est vraiment la conviction de la majorité des républicains. Littré a une très belle formule. Hein. Il dit « la démocratie, c'est démopédie », c'est-à-dire l'éducation du peuple. C'est ça qui garantit la démocratie. Ce n'est pas uniquement le bulletin de vote dans l'urne. Donc, les campagnes sont à gagner. Et c'est pour ça que Gambetta va être le commis-voyageur de la République. Il va aller dans toutes les sous-préfectures, parler dans les préaux d'école pour convaincre les paysans que c'est la République qui est un régime d'ordre, de liberté, de stabilité, de prospérité et qui respectera leurs propriétés. Et effectivement, dans les villes, c'est déjà gagné. En revanche,
mais dans les campagnes, quand est-ce que la roue tourne ? Quand est-ce que les idées républicaines commencent véritablement à s'ancrer et à être gagnées définitivement ?
Il y a certaines campagnes qui sont précocement gagnées aux idées républicaines. Sud-Est, Sud-Ouest, il y a des zones, ce qui correspond d'ailleurs à l'époque à la pratique religieuse, ou plutôt à la faible pratique religieuse des hommes. Donc, en plus de ces campagnes très précocement gagnées à la République, certaines dès 1848, c'est plutôt, justement, dans cette décennie et à la fin de la décennie 1870, que, véritablement, le combat va être gagné, mais qui reste fragile.
Alors, on comprend bien à ce stade que l'ancrage de cette République n'a pas été un long fleuve tranquille. Vous avez parlé de partis politiques divisés, des adversités très violentes. Les débats, j'imagine, devaient être très houleux à l'Assemblée. Il doit y avoir, j'imagine, des grands moments d'éloquence. Est-ce qu'on peut retenir des discours, des interventions de députés ou de sénateurs qui ont fait date ?
Alors, c'est le temps du Parlement de l'éloquence. Hein. L'éloquence est une grande valeur. Il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de journalistes, donc des gens qui savent écrire et qui savent parler et qui arrive avec cette culture à l'Assemblée. Donc, il y a des grandes joutes oratoires. Clémenceau, Gambetta, Jules Ferry, bien entendu. Hein. Il y a véritablement une culture du discours parlementaire et tout se passe au Parlement.
Alors, vous avez parlé de la fragilité de ce régime, de ce gouvernement. Pourtant, il a tenu le coup. C'est d'ailleurs le régime le plus durable depuis la Révolution, enfin jusqu'à aujourd'hui. Comment expliquer cette stabilité alors qu'il y a eu beaucoup de scandales, la crise des inventaires, le boulangisme?
Alors, c'est un régime profondément de compromis. Hein. Il y a une fragilité initiale. Il y a des contestations périodiques, il y a des vagues, hein, ce que Michel Vinocq a appelé les fièvres hexagonales. Hein, vous évoquiez quelques scandales ou quelques crises dans un climat, je le rappelle, hein, de dépression économique. Mais malgré tout, et effectivement ça peut être une source d'étonnement, la Troisième République, elle est finalement assez solide. Par exemple, il n'y a pas une instabilité ministérielle énorme sous la Troisième République. Aujourd'hui, on ne pourrait pas forcément en dire autant. Avant 1914, il faut vraiment faire la différence. Hein. Entre 1875 et 1914, il y a des gouvernements qui, pour certains, durent 2 ans, 3 ans. C'est quand même pas négligeable. Hein. Émile Combes, Clémenceau, entre 1906 et 1909. Voilà. Il y a des gouvernements relativement stables. Et puis surtout, ce qu'on oublie parfois, c'est que c'est toujours les mêmes ministres qui tournent sur les ministères clés, qui sont souvent tenus d'ailleurs après 1900 par le Parti radical, hein, qui va devenir le grand parti de la Troisième République, y compris dans l'entre-deux-guerres, le ministère de l'Instruction publique, qu'on appellera ensuite de l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture, puisque les paysans, c'est le principal électorat, le ministère des colonies aussi, qui est très important, hein, puisque comme il y a une frustration par rapport à la perte de l'Alsace et de la Moselle, hein, et un sentiment que tenter une revanche immédiate serait un suicide pour la France, il y a une sorte de projection coloniale qui vient compenser en quelque sorte cette frustration européenne. Et donc, il y a une sorte d'unanimité, mais en tout cas de majorité. Pas d'unanimité, hein, puisque Clémenceau, par exemple, est très critique et il y a un grand débat, vous parliez tout à l'heure d'éloquence parlementaire, il y a un magnifique débat entre Jules Ferry et Clémenceau, hein, sur les enjeux coloniaux, hein, et sur également la notion de race supérieure utilisée par Jules Ferry. Et Clémenceau lui rétorque, hein, que d'abord, il y a des civilisations très anciennes, par exemple en Asie, hein, ou au proche au Moyen-Orient, et puis que race supérieure, il a trop entendu ça en 1870 de la part de l'Allemagne vis-à-vis de la France. Mais bref, donc, on a un régime qui s'ancre, qui s'enracine, qui se stabilise. Après 1919, il y aura effectivement plus d'instabilité et on a retenu cette mauvaise image. Finalement, comme beaucoup de régimes politiques, la Troisième République, elle pâtit aujourd'hui dans la mémoire, hein, très probablement, bah, de sa fin tragique de juin-juillet 1940 et du mauvais procès qu'on lui a fait, même s'il a en partie des éléments factuels, hein, d'avoir finalement conduit la France à la défaite face à l'Allemagne nazie.
Alors aujourd'hui, les textes de la Troisième République ne sont plus en vigueur, mais est-ce qu'on peut dire que leurs principes ont survécu et structurent toujours notre droit constitutionnel français ?
Alors, les textes constitutionnels, ils ne sont plus en vigueur, mais il y a beaucoup de textes qui sont encore en vigueur. Quand on parle de la loi sur les associations, hein, de 1901, quand on parle, alors pas toutes les dispositions bien sûr, mais de la loi sur la liberté de la presse, hein, de 1881, là où vous avez raison, c'est qu'en matière de droit constitutionnel, ça n'est plus en vigueur. Mais je pense que ça a quand même marqué effectivement notre histoire politique et constitutionnelle. Par exemple, le fait que le Sénat ne soit plus guère remis en cause. Alors, périodiquement, hein, il y a une vingtaine d'années, par exemple, Lionel Jospin, ça lui a pas porté chance, mais avait contesté, hein, avait dit que le Sénat, finalement, c'était une sorte d'anomalie démocratique. Donc, la position du Sénat, c'est sûrement un héritage, et très probablement aussi la conviction que les élections législatives sont celles qui doivent déterminer l'orientation du gouvernement et l'orientation de la politique. Alors là, il y a, comment dire, deux écoles, si j'ose dire, une contradiction au sein de notre Ve République qui, malgré ses grands principes tout à fait respectables, hein, a un fonctionnement qui a été complexifié par la réforme de 1962. Je m'explique, il y a deux têtes de l'exécutif. Donc, qui doit véritablement conduire et déterminer la politique de la nation ? Si on regarde la Constitution, c'est le Premier ministre. En temps ordinaire, quand il y a une majorité et quand les élections ont lieu juste après, les élections législatives ont lieu juste après l'élection présidentielle, on sait bien que c'est le président de la République qui détermine et conduit la politique de la nation. Donc là, la Constitution n'est pas respectée. Donc cet aspect-là, effectivement, est relativement nouveau et aurait beaucoup choqué les républicains de la Troisième République.
J'avais une petite question pour finir. Pierre Alloran, vous présidez le comité d'histoire parlementaire et politique depuis l'année dernière, qui est donc soutenu par l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce que vous vouliez mettre en avant une actualité particulière qui aura lieu cette année ?
Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, bien sûr, mais je vais être bref, je vous rassure. On a beaucoup d'activités, puisqu'en fait, on a un séminaire à Sciences Po, hein, tous les mois, avec des thèmes d'actualité. Par exemple, on travaille beaucoup sur les think tanks aujourd'hui, qui d'ailleurs peuvent rappeler en partie ce qui existait au début de la Troisième République, avec ce qu'on appelait les parlottes ou les conférences Mollet-Tocqueville, etc. Donc, on a un séminaire, on a une revue qui s'appelle Parlement, hein, avec des thématiques extrêmement variées, mais sur, bien sûr, la vie politique et parlementaire. Et puis, on organise également, souvent en partenariat avec d'autres, des colloques. Donc, je terminerai simplement là-dessus, sur cette actualité immédiate. Le 20 mai, il y a un grand colloque sur Demain Jean Zay, voilà, qui est à l'Assemblée nationale, à l'hôtel de Lassay, sous le haut patronage de la présidente, Madame Yael Braun-Pivet. Et puis, on a également d'autres colloques à la fin de l'année.
Un grand merci à vous, Pierre Alloran, pour tous ces éclairages. J'invite aussi les auditeurs à se rendre sur le site donc, de France Mémoire, parce qu'ils peuvent y trouver un dossier assez fourni d'articles qui reviennent sur ce moment charnière de l'histoire. Et puis aussi, pour ceux qui habitent ou sont de passage à Paris, sachez que la place Vendôme accueille aussi une exposition dédiée aux lois constitutionnelles de la Troisième République, et c'est jusqu'au 25 mai prochain. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.